Ceci est un enregistrement sur bande numéro 8903C12SO, ACC12, FRT1, et c'est une traduction de l'enregistrement sur bande magnétique numéro 561030AC12, l'éducation, le point d'accord. En prenant des notes exactes, des commandements d'audition et des règles importantes, l'étudiant aura tous les matériaux dont il aura besoin pour futures références. Cependant, il n'est pas permis de copier, polycopier, de vendre ou de distribuer ses notes sous quelque forme que ce soit. Cet enregistrement a été fait par l'unité de traduction et a été reproduit par New Era Publications, Copenhague, Danemark. L'éducation, le point d'accord. Une conférence donnée le 30 octobre 1956. Les procédés d'enseignement sont tous très intéressants pour l'auditeur, car ils lui montrent en même temps que le dénominateur commun de la communication et de l'aberration, c'est dire quelque chose à quelqu'un. Voilà un bon dénominateur commun. Dire quelque chose à quelqu'un. Vous dites salut à quelqu'un. En essence, vous voulez dire par là, je suis ici, tu es là, et j'en suis conscient. Vous avez relayé une idée. Maintenant, ça fait très très longtemps qu'on a placé apprendre entre des cloisons bien délimitées. Apprendre a été soigneusement placé dans un sillon bien déterminé et a été défini dans les écoles comme un inflow d'idées. Littéralement, inflow signifie flux vers soi, vers l'intérieur. Apprendre était défini comme un inflow d'idées et c'est dans ce sens-là que nous en parlions avant 1956. Maintenant, si apprendre ne consistait qu'en cela, si apprendre consistait uniquement en un inflow d'idées, vous seriez dans un drôle de pétrin. Lorsque vous parlez à l'homme de la rue de ce sujet appelé apprendre, il pense que vous lui parlez d'un inflow d'idées, voyez, provenant d'une source, provenant d'un professeur ou d'un livre. Eh bien, voilà un point de vue fort étroit, et quand je vous parlais de ce sujet jusqu'à présent, j'employais le mot apprendre dans ce sens-là, c'est-à-dire un inflow d'idées. C'est faux de dire que la vitesse à laquelle on apprend, ou que la vitesse à laquelle on permet un inflow d'idées de se produire, est le dénominateur commun de toute aberration, mais ça en a tout à fait l'air. Ça en a tout à fait l'air, voyez, ça en a tout à fait l'air. En vérité, si vous preniez uniquement l'inflow en considération, ce serait comme si vous teniez compte uniquement du motivateur et que vous ignoriez l'overt. En tant qu'auditeur, vous savez combien il est important de prendre en ligne de compte l'overt plutôt que le motivateur. Voyez ce que je veux dire? Ne regardez pas tout le temps ces inflows. Si vous ne cessez de regarder ces inflows, rien que des inflows, vous ferez les innombrables erreurs qui ont été commises dans le domaine de l'éducation au cours des derniers millénaires. Ne commettons pas à nouveau ces mêmes erreurs. On pourrait définir l'éducation telle qu'elle existe comme suit. Ce n'est pas ainsi qu'elle est définie, mais je suis sûr que tout le monde sera d'accord avec cette définition. L'éducation est le processus qui consiste à placer des données dans la mémoire de quelqu'un. C'est ça que l'éducation croyait qu'elle faisait. Elle croyait qu'elle plaçait des idées, des données dans la mémoire d'une personne, et qu'elle dotait la personne de la faculté de se rappeler les données qui lui avaient été transmises. Eh bien, voilà une définition qui n'est pas très compliquée, et c'est justement ça le hic. Elle n'est pas assez compliquée. Maintenant, en scientologie, nous traitons de faits simples, et c'est la première fois que nous trouvons à redire à ce que quelque chose soit simple. Mais cette définition est celle d'un idiot. Et c'est cette façon d'apprendre qu'on utilise en ce moment même à Yale, à la Sorbonne. Toutes les universités, un peu partout dans le monde, qui se considèrent vraiment comme les meilleures dans le domaine de l'éducation, ne font rien d'autre que de placer des idées dans la mémoire des gens. Cependant, certaines universités se sont écartées de cette façon de faire, de temps en temps, presque par accident, et généralement sous la pression du corps étudiantin. L'université d'Heidelberg, en Allemagne, en est un exemple. Heidelberg n'a jamais attaché d'importance au fait de transmettre des données. Elle attachait de l'importance au fait d'avoir été à Heidelberg, ce qui est tout à fait différent. À Oxford, c'est un peu la même chose. Jusqu'à ce jour, pour être admis à Oxford, vous n'aviez pas besoin d'étudier la moindre matière. Il vous suffisait de traîner vos guêtres à Oxford et d'absorber l'atmosphère ambiante et vous étiez inscrit en bonne et due forme. Vous n'étudiez rien. Vous vous contentiez d'absorber l'atmosphère. Vous essayez d'imbiber l'air ambiant. Un endroit très intéressant, Oxford. Un Américain habitué à l'aspect brillant et lisse des universités américaines, est très impressionné par Oxford et son aspect ancien. Il est très impressionné par l'âge d'Oxford. Autour de l'un des bâtiments, il y a tout un tas de bustes, dont celui de Platon. Ils sont solidement maintenus en captivité autour de ce bâtiment. On a capturé tout un tas d'informations à Oxford. Quant à ce qu'on fait exactement avec ces informations, c'est une autre histoire. Ce n'est que très récemment qu'on a établi à Oxford un département scientifique qui enseigne l'application moderne des sujets scientifiques. Mais voilà une université qui existe depuis très très longtemps, mais qui s'écarte plus ou moins de cette idée comme quoi l'éducation consiste à placer des données dans la mémoire des gens. À Oxford, c'est sur l'atmosphère qu'on met l'accent. Et comme je l'ai dit, c'est un peu la même chose dans certaines universités allemandes. Mais là aussi, c'est l'inflow, pas vrai? Aussi longtemps que nous perpétuerons cette tendance à l'inflow, cette tendance à mettre uniquement l'accent sur l'inflow, nous aurons des problèmes. Il ne se produira pas d'éducation à proprement parler. Si l'éducation est synonyme d'inflow d'idées, alors elle est synonyme d'hypnotisme. C'est la même chose. C'est la même chose que de casser la figure à quelqu'un et d'installer un engramme. Ça aussi, ce serait de l'éducation, pas vrai? Ce qui fait que éducation et aberration étaient très étroitement liés. En fait, éducation était synonyme d'aberration. La vie n'arrêtait pas d'infliger une leçon qu'elle a réussi à lui apprendre, c'est de ne plus vivre. Et cette leçon fondamentale a donc toujours été à la base de l'éducation, telle qu'elle était dispensée. Ce qui fait qu'on peut considérer l'éducation comme une source d'aberration. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, les systèmes d'éducation se sont laissés aller à la paresse, ils ont choisi la solution de facilité, ils ont simplement fait pareil que l'univers Mest et appris à l'individu à ne pas vivre. Et ayant copié sur l'univers Mest, ils ont alors pensé qu'ils faisaient de l'excellent travail. Mais jetons un coup d'œil à l'éducation telle qu'elle était dispensée. Voici comment on enseignait. On disait à quelqu'un « Les cochons ont des groins ». Bien, les cochons ont des groins. Et le gars n'est pas censé dire oui ou répondre quoi que ce soit. Une classe, c'est censé rester silencieux, voyez? Et un peu plus tard, vous leur collez la feuille d'examen sous le nez, et l'une des questions dit « Qu'est-ce que les machins ont ?» Et vous êtes censé répondre et écrire du tac au tac « Les machins ont des groins ». Voyez? Vous êtes censé procéder entièrement par association d'idées. Bref, c'est juste un test de mémoire. Maintenant, comme vous le savez, thérapeutiquement parlant, le rappel, et soit dit en passant, si vous ne le savez pas, essayez un jour. Demandez à quelqu'un de se rappeler quelque chose à propos d'une personne, et ne demandez rien d'autre. Vous constaterez que son cas empirera. C'est intéressant comme phénomène. En fait, vous devez utiliser toute la formule de l'ARC. Quelque chose de vraiment réel, à un moment où tu étais en communication avec, sans oublier le flux inverse. Autrement dit, si vous vous serviez de la formule tout entière du fil direct d'ARC, inflow et outflow, vous pourriez vous en tirer. Mais si vous vous contentez de demander à quelqu'un « Rappelle-toi autre chose à propos de George. Rappelle-toi autre chose à propos de George. Rappelle-toi autre chose à propos de George. » Le gars va prendre tous les moments où il a vu George immobile. Et que subsistera-t-il alors? Eh bien, voyez-vous, ça efface tous les moments d'immobilité de George et il ne subsiste plus alors que les confusions, ainsi que la vague impression que George est là. Bref, nous amenons George en tant qu'entité désincarnée dans le temps présent et nous renforçons la valence. C'est un drôle de tour de jouer à quelqu'un, un drôle de tour. Vous éliminez les moments d'immobilité et George devient quelque chose de confus. Par conséquent, si vous utilisez uniquement le rappel, soit comme procédé thérapeutique, soit comme procédé d'éducation, vous allez plonger la personne dans la confusion. Elle sera à moitié hypnotisée. Des rappels, rien d'autre. En communiquant à des gens la donnée stable, puis vous la leur avez retirée. Examinez un jour les registres d'une université pour voir le nombre de suicides et de dépressions nerveuses, en admettant que ces registres soient honnêtement tenus. Je l'ai fait une fois et j'ai eu des ennuis à n'en plus finir. Je voulais savoir combien d'étudiants s'étaient suicidés dans cette université et qu'est-ce que j'ai eu comme ennui. Personne ne voulait reconnaître les faits. J'ai fini par découvrir qu'il y avait eu pas mal de suicides et qu'il y avait eu tout un tas de dépressions nerveuses, et toujours en période d'examen. On passe toute année scolaire à fournir des données stables à l'étudiant, puis, au moment de l'examen, brusquement, on les lui retire toutes. En d'autres termes, on a donné au fait d'implanter des choses dans la mémoire, puis de les retirer, le nom d'éducation. Mais ce n'est pas de l'éducation, c'est de la cruauté. Ce n'est rien d'autre que de la cruauté. Faire ça à des petits-enfants, c'est détruire leur esprit d'initiative. Aussi, il est temps que nous ayons une révolution dans le domaine de l'éducation. Il faudrait donner une définition beaucoup plus large à l'éducation. On pourrait la définir de bien des façons. On pourrait proposer quantité de définitions stables. Vous pourriez dire que l'éducation, c'est telle et telle chose, etc., etc. Mais souvenez-vous des vieilles logiques et de leurs définitions d'action. Il faudrait donner à l'éducation une définition d'action. Il faudrait que ce soit une vraie définition qui montre l'utilité et l'objectif de l'éducation, qui en fasse un jeu. La raison pour laquelle les enseignants entrent dans une condition de non-jeu, c'est que l'enseignement proprement dit n'est pas vraiment un jeu. L'enseignement consiste actuellement à mettre d'autres personnes dans une condition de non-jeu. Et bien entendu, ce n'est qu'une partie du jeu. Pour enseigner un sujet, il faudrait tout d'abord que la personne à qui on l'enseigne soit capable de recevoir de quelqu'un une donnée dénuée de signification et n'ayant aucun rapport avec le sujet. Ce serait une étape obligatoire pour enseigner quelque chose à quelqu'un. Très bien. Et la condition suivante qu'il faudrait remplir, ce serait de s'assurer que la personne conserve son pouvoir de choix par rapport aux données qu'on lui transmet. Voilà la deuxième chose dont il faudrait s'assurer. Elle doit garder son pouvoir de choix. Nous lui communiquerions alors des données incorrectes, et ce faisant, nous verrions 1. Si elle est capable de s'en souvenir, et 2. Si elle est capable de les rejeter. Bien entendu, il y a encore mieux qu'être capable de rejeter une donnée, et de s'en souvenir, et c'est d'être capable de l'effacer complètement, et de ne plus s'en souvenir. Et ça, c'est une aptitude. C'est une aptitude. L'étape suivante consisterait à lui proposer une donnée, et à lui faire donner des exemples objectifs, des exemples d'application de cette donnée, afin que celle-ci ne soit pas simplement une série de mots. Puis, vous vous assureriez que la personne est capable de la rejeter ou de l'accepter, et vous lui demanderiez de la reformuler. Et finalement, la personne élaborera quelque chose qui, pour elle, est une donnée stable avec laquelle elle est d'accord. Et elle aura alors exercé son pouvoir de choix sur une donnée. Là où vous aurez sans doute le plus de difficultés, c'est quand vous essaierez de simplement lui faire répéter ou se rappeler une donnée dénuée de signification. Et vous aurez peut-être aussi des gens qui vont passer un sale quart d'heure avec des données incorrectes. Vous leur communiquez une donnée incorrecte, ils sont incapables de la rejeter. Mais une fois qu'ils y seront arrivés, vous pourrez passer à l'étape suivante et leur communiquer une donnée, leur dire d'en donner des exemples objectifs, leur dire de la reformuler, leur demander de donner des exemples objectifs de cette donnée, les amener à la rejeter, à l'accepter, à la tourner dans tous les sens, et puis brusquement, ils seront en possession d'une donnée qui va dissiper la confusion qui entourait ce sujet en question. Ils ont créé une donnée qui, pour eux, est en béton armé. Ils savent une donnée. Et ils ne la savent pas en tant que donnée mémorisée. C'est ça le truc, comprenez? Je veux dire, c'est complètement différent. Maintenant, c'est très très difficile de décrire la façon dont ils savent cette donnée, car il n'y a rien à décrire, si ce n'est la donnée elle-même. Donc, écrire de longs chapitres sur ce type de savoir, sur ce type de knowingness, serait impossible. C'est quelque chose qu'on sent qu'on a en soi. Ça ne peut pas être décrit. Bien. Donc, examinons l'éducation et voyons pourquoi nous procéderions de la sorte plutôt que de nous contenter de placer quelque chose dans la mémoire de quelqu'un, si nous voulions qu'il connaisse vraiment une donnée. Pourquoi procéderiez-vous de la sorte? Y aurait-il une raison valide à cela? Eh bien oui, indubitablement. Car l'individu va être capable d'utiliser cette donnée. Il va être capable d'évaluer son importance. Il va être capable d'en faire quelque chose et de faire beaucoup d'autres choses avec. Autrement dit, vous lui avez donné quelque chose dont il va pouvoir se servir. Maintenant, à quelle vitesse pourriez-vous enseigner la géométrie? À quelle vitesse pourriez-vous amener un individu à un niveau où il puisse se servir de la géométrie? Eh bien voilà une question à laquelle il n'est pas facile d'apporter une réponse. Vous voyez, nous nous trouvons en ce moment à l'entrée d'un domaine appelé éducation, un domaine qui hier n'existait pas. Comment comparer les connaissances en géométrie d'hier et les connaissances en géométrie de demain? Eh bien ça aussi, c'est difficile à dire. Ce sont deux géométries différentes, deux savoirs différents. Vous avez quelque chose de complètement nouveau ici en scientologie. Vous avez l'aptitude à créer la géométrie, voyez? Ce qui n'a rien à voir avec connaître la géométrie. Euclide était un bon écrivain. C'était un garçon intelligent. Un gars très bien, Euclide. Mais le problème, c'est qu'il était un diseur de bonne aventure. Toutes les géométries viennent de l'école chaldéenne et sont passées par Babylone et par l'Égypte avant d'atterrir en Grèce. Un sujet très intéressant, la géométrie. Vous faites des tas de choses fascinantes. vous pouvez prédire le futur avec la géométrie. Vous ne le saviez probablement pas, mais c'est ce que l'on fait. La géométrie n'est pas quelque chose dont on se sert dans le domaine de l'ingénierie. Oh non, ce sera un sacrilège. Quant à l'arithmétique, c'est sans doute un sujet que vous connaissez mieux en tant que sujet mystique. Et l'arithmétique est un sujet chaldéen qui est devenu babylonien puis égyptien avant d'être introduit en Grèce par un gars qui est surtout connu pour ses travaux en géométrie. Mais en fait, il a transplanté l'arithmétique pour vous dire la confusion qui règne dans le sujet. Il s'agit de Pythagore. Je pense qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas à propos de l'arithmétique. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'arithmétique est un sujet très très profond et très sacré. Je vous parie que vous ne savez pas ce que le chiffre 8 représente en réalité. C'est parce que l'arithmétique est un sujet profond. Le chiffre 8 ne représente pas 8 unités. Il représente un sac plein d'argent posé sur un sac plein d'argent. Vous ne le saviez pas, hein? Maintenant, ça m'embête d'être freudien avec vous et de vous dire ce que signifient les chiffres 1, 2, 3. Ça me chagrine d'être freudien avec vous, mais ces chiffres signifient deuxième dynamique, surtout le chiffre 3. Si vous examinez ces sujets de près, vous constaterez que ce sont des sujets très très compliqués, très très profonds. Ils sont si profonds et si compliqués que non seulement on a évité d'enseigner leur forme originelle au fil des siècles, mais qu'on commence à les enseigner dans toutes les écoles d'une façon incompréhensible pour l'étudiant. Car la géométrie et l'arithmétique, si on les compare à tous les autres sujets, sont simplement des sujets arbitraires. Ils ne sont pas forcément vrais du tout. Ils sont arbitraires. Si vous changez l'arithmétique, ça devient un sujet sans queue ni tête. Donc, quand vous ne faites rien d'autre que placer des données de cette nature dans la mémoire de quelqu'un, vous faites de drôles de dégâts, car ces sujets ne sont pas vrais. Vous dites à l'étudiant « Voici comment on pense ». Mais lui, il pense d'une autre façon. Le manuel moderne de géométrie qu'on donne aux lycéens américains vous dit « La logique, c'est ça. Le raisonnement logique s'effectue comme ça. C'est comme ça que l'on pense ». Et quantité d'étudiants se rebellent contre ça et disent que ce n'est pas vrai et essaient de jeter le bouquin par la fenêtre. Mais on n'arrête pas de le leur ramener en disant « Ma foi, si tu veux réussir l'examen, j'ai bien peur que tu ne doives dire ce qui est écrit là-dedans. » Ça n'a absolument rien à voir avec la logique, la vraie. La géométrie n'est pas la logique, c'est un type spécial de logique, connu sous le nom de logique aristotélicienne, laquelle est une logique du genre noir et blanc, ouais, non. C'est la logique de l'Église catholique, le péché est le péché, la vertu est la vertu, et il n'y a rien entre les deux. Absence totale d'échelle de gradient. Dès que vous introduisez le concept échelle de gradient dans la géométrie, vous détruisez la géométrie. Boum, elle vole en éclats. Maintenant, vous savez que si vous voulez qu'un préclair aille mieux, vous devez employer des échelles de gradient. Eh bien, examinez bien le problème. Vous paraît-il tout à fait juste et correct d'enseigner à un étudiant un sujet qui le rendra malade? Est-ce que ça vous semble être la bonne chose à faire? En fait, la géométrie est l'une des méthodes employées pour effectuer des études de terrain. Il y a des tas de méthodes pour effectuer des études de terrain. J'en connais une demi-douzaine qui sont aussi valables que la géométrie. Alors pourquoi enseigne-t-on ce sujet arbitraire comme étant le sujet? Et pourquoi s'est-on senti obligé de dévier et de lui donner le nom de logique? Serait-ce qu'on ne cherche pas à éduquer? Serait-ce qu'on fasse autre chose? Eh bien, cette hypothèse, lorsque nous examinons l'histoire de l'éducation, se vérifie invariablement. On n'a pas eu pour intention de dispenser l'éducation telle que nous autres scientologues la concevons. Maintenant, bien sûr, comprenez bien que c'est juste une critique de ma part, que je suis quelqu'un de très critique, et que ça ne veut pas forcément dire que les individus tout au long de la piste de temps ont cherché à détruire les enfants des meilleures familles. Je pense pas qu'on ait vraiment eu cette intention. Je ne crois pas que ce soit vrai que l'université américaine est uniquement là pour empêcher les États-Unis d'avoir des cadres et des dirigeants honnêtes et compétents. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense que ce serait une affirmation pas trop radicale, pas trop gratuite. Mais pas plus gratuite ou arbitraire que les déclarations qui sont faites chaque heure et chaque jour dans chaque université, lycée et école de ce pays. Elles sont exactement aussi arbitraires, aussi générales, aussi dénuées de fondement. Ce n'est pas parce que ces écoles étaient si ignorantes qu'elles ne savent pas enseigner, que nous devons obligatoirement les accuser de sabotage. Mais elles ont une façon particulière de s'exposer au sabotage. Je vais vous parler maintenant d'une petite particularité qu'on a introduite dans le domaine de l'éducation elle-même. Aujourd'hui, l'enseignement, tel qu'il est pratiqué dans les écoles modernes, met l'accent sur la chose suivante. Comment occuper le temps de l'enfant? Je ne plaisante pas, c'est ça qu'on enseigne dans les écoles normales. Comment occuper le temps de l'enfant? Voici sur quoi on met l'accent. Vous allez avoir l'enfant tant et tant de temps. On le sort de la maison parce que sa mère ne veut pas l'avoir dans les pattes pendant tant et tant de temps. et il faut donc occuper son temps à l'école. Et on s'étonne après que l'enfant, arrivé à l'âge de 12 ou 13 ans, ne connaisse pas l'orthographe, écrive comme un cochon et sache à peine lire. C'est parce que le domaine de l'éducation a acquis un objectif différent. On est loin de la tradition scolaire qui existait il y a 3 ou 4 générations, car il existait une autre tradition aux États-Unis, et j'ignore d'où vient cette nouvelle tradition que je viens de vous décrire, mais l'autre tradition était la tradition américaine, et voici comment elle fonctionnait. Vous preniez l'enfant, vous lui colliez des chaussures aux pieds, et vous lui appreniez l'écriture, la lecture et l'arithmétique du mieux que vous pouviez et le plus vite possible, parce qu'il ne resterait pas très longtemps à l'école. Voilà ce qu'on apprenait à l'enseignant qui faisait l'école normale ou son équivalent il y a 100 ans. Vous devez faire vite, car on ne sait jamais quand papa va venir récupérer le gamin et le coller derrière la charrue. Donnez-lui autant d'éducation que possible avant que ça arrive. Il est probable que vous aurez les enfants en hiver, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de travail à la ferme, mais vous ne les aurez jamais en été. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi il y a des vacances d'été. C'est plutôt singulier pour un enfant d'avoir des vacances d'été, soit dit en passant. Mais cette vieille tradition a survécu. Pas d'école d'été. Bizarre, hein? C'était pendant l'été qu'on faisait tout le travail à la ferme. Même dans les entreprises familiales, c'était pendant la belle saison qu'on avait besoin de l'enfant. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, durant les plus bons mois de l'année, on n'envoie pas les enfants à l'école. Eh bien, c'est plutôt idiot. Bien entendu, l'enfant est tout à fait pour. En général, il n'éprouve pas beaucoup de sympathie pour l'éducation telle qu'elle est pratiquée. Mais si l'école éduquait vraiment l'enfant, je vous parie que son attitude serait totalement différente. Maintenant, j'ai eu la très grande chance de connaître au cours de mon existence bon nombre de véritables génies, des gars qui ont inscrit leur nom en grosses lettres dans le domaine de la littérature et dans celui de la science, et j'estime avoir eu beaucoup de chance car ils ne courent pas les rues. Eh bien, j'ai fait une découverte très singulière à leur propos. La plupart d'entre eux avaient été éduqués dans une école non traditionnelle, comme par exemple une école de l'Association chrétienne des jeunes hommes, ou bien dans une toute petite école de quartier pour enfants difficiles, dirigée par un Anglais. Apparemment, tous ces types avaient été éduqués dans une école non conventionnelle. Je trouve cela vraiment singulier. Et comme ce genre d'école était surtout là pour s'occuper des élèves qui avaient été éjectés des écoles traditionnelles, on ne s'employait pas tellement à leur donner une éducation. L'élève arrivait, il s'intéressait à telle ou telle matière et le directeur lui laissait alors le champ libre, c'est tout. L'un de ces génies, se dit en passant, à qui nous devons les fusées à fuel solide, ainsi que le système de propulsion pour avions trop lourdement chargés qui doivent décoller d'un porte-avions, et tout un tas d'autres découvertes dans le domaine de la propulsion et des fusées, et qui a mis sur pied Aerojet en Californie, une société qui produit des fusées et de l'armement militaire, je veux parler ici du vieux Jack Parsons, eh bien, ce gars n'était pas un chimiste tel que nous concevons les chimistes. Voici en quoi a consisté son éducation de chimiste. Un petit professeur avait ouvert une école, et personne n'avait réussi à faire quoi que ce soit avec Jack. C'était un vaurien, un voyou, et on l'a envoyé dans cette école. Et ce prof a vu que Jacques s'intéressait aux expériences chimiques, et il lui a laissé le labo, et l'a énormément encouragé. Et Jacques a été un homme d'exception. Eh bien voilà qui est très intéressant, très intéressant. Apparemment cette méthode d'éducation à la va comme je te pousse est très efficace. Ce qui ne veut pas dire que chaque génie, chaque personnage brillant dans tel ou tel domaine, a été éduqué de cette façon. Quelques-uns ont réussi à survivre au système d'éducation traditionnel. Cependant, ça nécessite un niveau élevé de survie. Il faut vraiment être un battant. Et un grand nombre de ces types emportent les cicatrices. Eh bien, tout ça est très important pour nous aujourd'hui, car nous vivons dans une société compliquée qui requiert de nombreux talents. Rien que ce matin, j'étais occupé à une action très intéressante, apprendre à une bonne Italienne qui ne parle pas l'anglais à se servir d'une machine à laver, d'une sécheuse et d'une machine à repasser américaine. J'ai appris à m'en servir en étudiant leur mode d'emploi. Ça m'a pris très très peu de temps. Il fallait que j'assimile ça en vitesse afin de pouvoir apprendre à la bonne à se servir de ces machines. Et pour ça, il fallait d'abord que je lise les modes d'emploi, mais je n'avais pas le temps de les lire en entier et en plus, ils ne valaient pas un clou. Aucun de ces modes d'emploi ne disait ce que les machines faisaient. Ils disaient quel bouton il fallait tourner, et ils parlaient tout le temps du cycle complet de la machine. Ces deux mots revenaient sans cesse, le cycle complet est terminé, le cycle complet par-ci, le cycle complet par-là. Et je n'arrivais pas à voir ce qu'était le cycle complet. Qu'est-ce que ce cycle complet? Que font ces machines au juste? Eh bien, ça ne se trouvait pas dans le manuel d'instruction, le mode d'emploi. Mais malgré ce mode d'emploi complètement idiot, car j'étais habitué à ce genre de choses, personne ne m'a jamais appris à faire marcher des vaisseaux de guerre, j'ai appris tout seul sur le tas. Vous savez, la guerre est déclarée, on vous colle des galons et on vous bombarde capitaine ou quelque chose comme ça. Et vous voilà dans la marine, l'armée de terre ou l'armée de l'air. Et on vous dit, voici un bombardier, pour décoller, appuyez sur ce bouton. Et voilà, pareil pour la mission numéro 1. Cependant, encore heureux, On laisse parfois traîner tout un tas de manuels d'instruction. Car bien entendu, piloter un bombardier sans manuel d'instruction, c'est plutôt gênant à ce qu'il paraît. Le manuel d'instruction fait plus ou moins partie de la tradition américaine aujourd'hui. Vous lisez le manuel d'instruction, le mode d'emploi, puis vous l'appliquez à la machine. Aussitôt lu, aussitôt fait, si je puis dire. Eh bien, j'ai été pétrifié un jour en découvrant que bon nombre de gens n'y arrivaient pas. Fascinant. Ils n'y arrivent pas. Bon, on ne peut pas dire que j'ai eu beaucoup de mal ce matin à faire marcher ces machines. J'ai lu le mode d'emploi, puis n'arrivant pas à comprendre ce qu'était le cycle complet, je suis descendu et j'ai mis la machine en route après l'avoir programmée pour la durée de lavage minimum. Puis je suis resté là, écouté le cycle complet jusqu'à la fin, et j'ai dit « Ah, c'est ça que ça veut dire !» Et tout est devenu clair. Et j'ai réussi à faire comprendre pas mal de choses à la bonne, mais elle n'a pas arrêté de discuter. Et elle m'a dit qu'il ne fallait pas laver le linge trop souvent, qu'il ne fallait pas laver le linge trop souvent, et qu'il ne fallait pas laver trop d'affaires séparément, car chaque lavage consommait un tiers de paquet de lessive. Je ne sais pas d'où elle sort cette donnée, car bien entendu on utilise une mesure de lessive équivalent à environ un tiers de tasse de thé. Vous voyez ? Il y avait une légère différence dans les mesures ici. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que le cycle complet d'éducation est terminé. Je suis sûr qu'il ne l'est pas. Je suis sûr que les informations que j'ai communiquées à la bonne, même si elle n'était pas d'accord avec, toutes les objections qu'elle a faites avaient trait à quelque chose dont je ne lui avais pas parlé. Toutes ces objections concernaient quelque chose dont nous n'avions pas parlé et n'avaient pas vraiment de rapport avec ce que nous discutions. Bref, j'ai appris par moi-même ce matin à utiliser une machine à laver, mais j'ai bien peur qu'il me faille bien plus de temps que ça pour l'enseigner à la bonne, car il faudra corriger et recorriger ce qu'elle fait. Pourquoi ? Eh bien, à aucun moment, elle n'a eu le moindre pouvoir de choix par rapport aux données. Elle n'a pas pu exercer le moindre pouvoir de choix sur la machine à laver. Une machine à laver n'est pas quelque chose que vous conduisez ou pilotez. C'est une chose, une masse. C'est quelque chose de plutôt impressionnant. Et si cette machine est trop simple, la bonne italienne trouvera le moyen de la rendre incompréhensible. En fait, cette machine accomplit quelque chose de plutôt magique. Vous y mettez du linge et de la lessive, vous poussez un bouton, elle se remplit d'eau, elle lave tout très proprement, elle essore le linge, elle le sèche à moitié, elle le rince, elle tressaute, son tambour tourne sur lui-même à toute allure, elle évacue toute l'eau, elle se remplit à nouveau d'eau, elle tressaute, elle essore et elle s'arrête. Fabuleux, hein ? C'est du jamais vu, de la magie pure et simple. Eh bien, c'est trop simple, beaucoup trop simple. Maintenant, quel type de procédé devriez-vous utiliser ? La raison pour laquelle j'ai pris cet exemple, c'est que je voulais simplement vous montrer où tout ça vient se placer. Serait-ce réellement suffisant de lui faire apprendre les instructions par cœur ? Il y a une leçon que j'ai apprise, ou plutôt, que je n'ai jamais apprise. Je n'ai jamais réussi à apprendre que je ne pouvais pas exercer de pouvoir de choix sur un manuel d'instruction. Je peux le lire ou ne pas le lire, c'est selon. De plus, je ne suis pas forcément obligé de croire que les instructions s'appliquent à la machine. Il arrive souvent que ce ne soit pas le cas. Vous lisez le mode d'emploi, et tout content vous dites « Ça y est, je sais tout ce qu'il y a à savoir là-dessus ». Et vous découvrez alors que les instructions s'appliquent au modèle WS56, mais que votre modèle à vous, c'est le WD56. Légère différence d'épellation, sauf que ces deux engins servent à deux choses complètement différentes. Maintenant, où cette éducation doit-elle commencer ? Ça ne suffit pas de dire, elle doit commencer avec le manuel d'instruction, appliquons le manuel à la machine. Il vous faudrait d'autres leçons élémentaires, fondamentales. Bon, trêve de bavardage, trouvons la réponse à tout ça. Donc, nous avons dit qu'il nous faut des leçons élémentaires. Où commencerions-nous ? Où ce cycle d'éducation commence-t-il ? Eh bien vous, en tant que scientologue qui appliquez les matériaux scientologiques, et qui devez concocter la donnée stable la plus fondamentale pour un préclair, ou l'étape de base d'une opération dans une usine, ou n'importe où d'autre, vous avez intérêt à savoir que vous aurez parfois les pires difficultés à trouver le point de départ. C'est ça qui est important, trouver le point où le cycle commence. Où devez-vous commencer le cycle d'éducation à la mode scientologique ? Où allez-vous commencer ? Eh bien, en Afrique du Sud, on enseigne les principes de la prévention de l'érosion du sol, et bien entendu, la nation anglaise en sait beaucoup plus que les autochtones sud-africains, que les sud-africains. Ça a toujours été vrai. Plus vous êtes éloigné de quelque chose, plus vous êtes un expert. Et la nation anglaise a beaucoup beaucoup de qualités, mais trouver le point de départ exact d'un cycle d'éducation ne fait pas partie de ses qualités. Et les Anglais ont donc dépensé des fortunes dans cette expérience particulière visant à apprendre aux indigènes à préserver le sol. Et ils ont plus ou moins forcé le gouvernement sud-africain à prendre part à ce projet. Et les indigènes n'ont rien pigé. Vous labourez dans ce sens-là, comme ça vous empêchez l'érosion, et vous faites ci, et vous faites ça. Un programme gigantesque. Un programme très très coûteux. Et il n'accroche pas. La façon dont il est présenté fait qu'il est aussi efficace qu'un programme d'observation de la Lune destiné à des taupes. Il n'accroche pas le moins du monde. Tant qu'il y a un contremaître blanc dans les parages, les indigènes font ce qu'il faut pour empêcher l'érosion. Mais dès que le contremaître blanc a le dos tourné, bouf, le programme déraille. Si l'indigène se désintéresse du programme, ce n'est pas parce qu'il est contre la préservation du sol. C'est parce que le cycle d'éducation ne commence pas où il faut. Il ne commence pas par quelque chose avec lequel l'indigène puisse être d'accord. Ce qui nous donne notre première véritable règle. Lorsque nous enseignons quelque chose à quelqu'un ou lorsque nous auditons quelqu'un, cette règle s'applique à l'éducation comme à l'auditing. La voici. Vous devez trouver un point de réalité avec lequel le préclair puisse être d'accord. Et quelque part dans le cycle d'éducation, il existe un point de réalité comme celui-là. Il existe un point auquel la personne souscrira. Autrement dit, votre point de vue de ce que vous faites et son point de vue de ce qu'elle fait coïncide. Et c'est parfois un point complètement idiot ou un point terriblement complexe. Maintenant, j'ai appris à des indigènes d'autres pays à faire tout un tas de choses. Et il n'est pas forcément vrai que vous deviez commencer avec quelque chose de simple. Il n'est pas forcément vrai non plus que vous deviez commencer avec quelque chose de complexe. Il n'y a qu'une chose qui soit vraie, et c'est que vous devez commencer avec un point sur lequel ils sont d'accord. Un point dont ils conviennent qu'il est vital et nécessaire. Les Sud-Africains vous diraient probablement que l'indigène n'est pas tout à fait conscient du fait suivant, un fait très intéressant, à savoir que son sol ou sa terre appartiendra un jour à son fils. Sa conception du temps n'est pas très bonne. Eh bien, ce serait avec ce point fondamental qu'il vous faudrait démarrer tout ce programme de préservation du sol, de lutte contre l'érosion du sol. Je vous en prie, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Car cette histoire de point de départ est la seule chose qui puisse vous conduire à l'échec lorsque vous essayez d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Quand vous essayez de déterminer, de deviner où vous allez devoir commencer, même vos suppositions les plus malveillantes, les plus dépréciatrices, seront à côté de la plaque, et vous ne saurez jamais vraiment où commencer tant que vous ne serez pas en action sur le terrain. Autrement dit, votre point de départ est toujours plus bas que vous ne croyez. Toujours. Vous otidez le préclair sur quelque chose de trop élevé pour son cas, voyez? Et rien de ce que vous lui dites n'est réel pour lui. La machine n'est pas réelle. Les instructions ne sont pas réelles. Rien n'est réel. Il faudrait apprendre aux Sud-Africains à éduquer un indigène à partir d'un point de réalité, et alors tout ce programme serait couronné de succès. Ce n'est pas que l'indigène soit récalcitrant. C'est juste qu'on n'a jamais gratté la couche sous laquelle sont enfuis ses préjugés compliqués, et sa réalité concernant la préservation du sol. Voici ce que vous devez sans doute lui enseigner. Maintenant regarde, une terre, voici une terre, elle appartient à la tribu, pas vrai? Ouais, très bien. Maintenant écoute, il n'y a pas d'autre terre. Oh, j'en suis pas si sûr. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas conquis une tribu ennemie? Hey, c'est pas bête ce que tu dis. Ça fait une éternité que nous autres Matabés n'avons conquis personne. Tu as raison. Nous ne nous procurons pas de nouvelles terres. Le gars risque d'être tellement enthousiaste à ce point précis de la leçon qu'il va sans doute aller faire le tour du village et convaincre tout le monde de la véracité de cette donnée. Ben ça alors ? Ça alors ? Bon sang, mais c'est vrai ! C'est vrai ! C'est une sacrée découverte que t'as faite là. Bon sang, t'es pas bête. Homme blanc, t'es pas bête. Ça alors ? Tu veux dire que nous ne sommes pas en guerre ? Que nous n'allons pas acquérir de nouvelles terres. Ces terres sont les nôtres, nous allons sans doute continuer de les avoir, mais nous n'en aurons pas de nouvelles. Ah, extraordinaire! Nous ne nous procurons pas de nouvelles terres ces jours-ci. Eh bien, vous devez sans doute attendre que son enthousiasme se soit apaisé. Ce sera sans doute une cognition énorme, voyez. Il vous faudra attendre que la tempête se soit calmée. Vous devez peut-être attendre une semaine avant de pouvoir lui donner la leçon suivante, et la leçon suivante dit... Si tu ne possèdes qu'une petite quantité de quelque chose, tu dois en prendre soin. Là, vous risquez fort de mettre en route tout un mécanisme de figure-figure. Quel principe abstrait! Et puis brusquement, le gars va avoir une cognition mammouth, en admettant qu'il ait une cognition sur ce point précis. Ça alors, si tu as deux femmes, tu ne dois pas les frapper, autrement elles ne peuvent plus travailler. C'est donc pour ça que le travail n'est jamais fait ici. Et toute la semaine suivante, c'est un remue-ménage de tous les diables. Et puis finalement, vous allez l'amener à un point où il est conscient qu'il est censé prendre soin des choses. Une leçon qui n'a jamais été enseignée aux indigènes d'Afrique du Sud. Maintenant, nous prenons un gars qui n'a pas ce genre d'objectif en tête, et nous lui disons d'enseigner l'érosion du sol. Bonjour les dégâts. C'est comme si vous auditiez un PC, Terre, Soleil, Lune, Terre, un PC qui est mort dans sa tête, du basalte noir. Bien. Va jusqu'au Soleil. Va jusqu'à la Lune. Va jusqu'à la Terre. Très bien. Comment vas-tu?
Je ne vais nulle part.
Qu'est-ce que tu me racontes là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'indigène apprend qu'il doit prendre soin de quelque chose. Puis il apprend que la façon de prendre soin de quelque chose, c'est de... Compris? Vous me suivez? Attendez-vous toujours à faire une découverte remarquable. Mon Dieu, ce à quoi j'ai été confronté ce matin, si je n'avais pas réussi à faire comprendre le fonctionnement de la machine à laver à cette femme, c'est parce que la machine ne pense pas. Parce que c'est une série de rouages qui font tout le temps marcher la machine, comprenez? Parce que la machine va continuer toute seule. Parce qu'on n'a pas besoin de se faire du souci. Le grand défaut, c'est quand la personne tripote les boutons de réglage automatique. Elle change les réglages pendant le cycle de lavage. Elle ne sait pas que tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur un bouton, et le cycle de lavage redémarrera et ira jusqu'au bout. Non, la personne reste là, à presser la machine contre son cœur. Elle n'a pas confiance dans le cycle répétitif automatique. Elle n'a aucune réalité sur le fait qu'il existe des cycles répétitifs qui fonctionne sans intervention humaine. Par quoi devez-vous commencer si vous voulez apprendre à quelqu'un à utiliser une machine à laver? Cette machine qui, autrement, va être bousillée, utilisée n'importe comment, insultée, le linge ne sera pas lavé, etc., etc. La machine n'est pas réelle. Ce que fait la machine n'est pas réel. La raison pour laquelle on lave des vêtements n'est pas réelle non plus. Maintenant, je ne sais pas où il vous faudrait commencer si vous aviez affaire à un indigène des îles Wallaby. J'en ai aucune idée. Où commenceriez-vous? Comment apprendriez-vous à cette personne à utiliser une machine à laver? Ouais. Vous commenceriez sans doute par dire « Il existe des choses appelées vêtements. » Voyez, la personne devra avoir une espèce de cognition comme quoi la jupe d'herbe tressée qu'elle porte est un vêtement. Vous comprenez? Il faudrait lui enseigner le concept d'habit, les principes de l'habillement ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il faudra lui enseigner un autre principe. Que des habits sales ne sont pas acceptables socialement. Comment diable allez-vous vous y prendre pour lui faire comprendre cette donnée abstraite? J'en ai aucune idée. Mais il faudra la lui faire comprendre d'une façon ou d'une autre. Oh, je ne sais pas, moi. Vous devez sans doute établir une espèce de règle sociale qui dit que les filles qui portent des vêtements sales ne seront pas invitées à sortir par leur petite amie ou quelque chose comme ça. Il vous faudra associer ce principe à une autre série de principes car c'est un principe extrêmement abstrait. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez leur enseigner quelque chose sur la nécessité de laver ses vêtements. Et une fois que vous leur aurez enseigné qu'il est nécessaire de laver ses vêtements, vous pourrez alors leur montrer comment on s'y prend. S'ils ne savent pas qu'il est nécessaire de laver ses vêtements, comment diantre allez-vous faire pour leur apprendre à les laver? Maintenant, vous croyez peut-être qu'il faut aller chez les indigènes d'Afrique du Sud ou les îles Wallaby pour se retrouver dans ce genre de situation. Oh que non. Vous vous rendez à la manufacture d'armes de Hartford et vous allez voir un ouvrier qui travaille sur une machine à couper l'acier. Et cette machine est tout le temps en panne. Apparemment, elle ne fonctionne pas bien. Eh bien, voici comment vous mettez en place le principe manquant. Si quelque chose fonctionne mal, c'est qu'il manque un principe ou une intention, un but. Si la machine fonctionne mal, il y a deux raisons à cela. En général, soit la machine a des défauts de fabrication, soit elle n'est pas utilisée exactement dans le but qui est le sien. Voilà qui est intéressant, car vous constaterez que tous ceux qui ont des problèmes avec des machines utilisent ces machines dans un but légèrement différent que le but dans lequel elles avaient été construites. Maintenant, il se pourrait que vous deviez d'abord enseigner le but de la machine à la personne, avant de lui apprendre à faire fonctionner la machine. Peut-être devrez-vous l'amener à prendre conscience qu'il y a des intentions derrière les choses, voyez? Une chaise, c'est fait pour être assis dessus. L'intention de celui qui a fabriqué la chaise, c'était de fabriquer quelque chose sur lequel on s'assoit. Celui qui a dessiné la chaise avait l'intention qu'on s'assoie dessus.
Maintenant, combien y a-t-il de gens qui croient qu'une chaise, c'est fait pour mettre les pieds dessus, ou que c'est quelque chose pour accrocher des vêtements, ou que c'est quelque chose dont on se sert pour décorer? C'est à cet usage qu'on réserve les chaises dans les États de la Nouvelle-Angleterre. C'est quelque chose pour décorer la salle de séjour, mais pas quelque chose sur lequel on s'assoit. Vous voyez ce que je veux dire? L'objet est utilisé dans un but différent de celui dans lequel il a été conçu. Donc, peut-être que le gars qui travaille sur la machine à couper l'acier ne sait pas du tout à quoi elle sert. Il pousse bêtement les leviers. Et vous arrivez, et vous commencez à l'éduquer en partant de la leçon « Dans quel ordre pousse-t-on les leviers ?» Il arrive, apparemment, à comprendre dans quel ordre on les pousse. Mais de temps à autre, il se trompe. Vous dites « Attends un peu. Tu pousses d'abord le levier 1, puis le levier 2, puis le levier 3. » Il dit « Pigé, c'est facile, par la mer à boire. » Et il pousse le levier 1, le levier 3, le levier 2. Et la machine fait « Spling, plong !» Et un gros morceau d'acier est éjecté et atterrit quelque part avec fracas. Fichu le morceau de métal. Fichu la lame qu'il y a sur le rouleau. On est obligé de la remplacer. Et ça arrive tous les 2 ou 3 jours. Cet homme n'a pas de machine en face de lui. La machine ne sert à rien. Il ne sait pas ce qu'on fabrique dans cette usine. Il ne sait pas qu'il fait partie d'une chaîne de montage qui fabrique un produit. Il ne sait pas qu'il y a une usine. Il ne sait pas qu'il travaille. Peu importe jusqu'où vous devriez creuser pour trouver la chose qu'il ne sait pas, ça va être quelque chose de démentiel que vous trouverez. Et je peux vous assurer que si vous contentez de lui dire « Regarde, 1, 2, 3 » et vous contentez de suivre une espèce de routine « Regarde, il faut pousser les leviers dans l'ordre pour faire fonctionner cette machine », vous vous retrouvez à votre point de départ. Vous pourriez lui enseigner cela, mais en fait, vous ne lui aurez rien enseigné du tout. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas réel. Il faut que la machine ait un but, une raison d'être, qu'elle serve à quelque chose. Il doit connaître le but de la machine pour pouvoir la faire fonctionner. Il faut que l'activité soit une activité complète. Il faut qu'il ait une raison. La machine doit s'imbriquer dans d'autres activités. La relation entre la machine et l'usine, la machine et les autres machines, la machine et la matière première, la machine et le produit fini, tout cela devra être plus ou moins clarifié. Mais peut-être que vous ne pouvez pas clarifier tout cela tant que vous n'aurez pas découvert si oui ou non il est là. Une fois, j'ai interrogé et réparé pour une grosse scierie un gars prédisposé aux accidents. Ce type était une curiosité. On ne savait pas quoi faire avec lui. On savait que des accidents se produisaient dans son voisinage, mais on ne voulait pas croire que c'était son œuvre. Et je suis allé le chercher au dispensaire, il venait d'avoir un accident de trop et cette fois-ci, lui aussi avait été blessé. Je m'étais tout d'abord renseigné sur son passé. Le fait qu'il y avait des accidents dans son voisinage était bien connu. En fait, je ne cherchais pas à améliorer son aptitude à apprendre. J'ignorais tout de ce sujet à l'époque. Par contre, j'en connaissais un bout sur la cause des accidents. Et je lui ai fait localiser tout un tas de raisons et d'intentions de causer des accidents, si bien qu'il a finalement eu la cognition que les accidents étaient quelque chose de réel, qu'ils existaient, qu'il se produisait vraiment des accidents, qu'il pouvait arriver que quelque chose se produise. C'était aussi bête que ça. Je veux dire, vous regardez ça et vous dites comment quelqu'un peut-il avoir une cognition là-dessus. Tu veux dire que le gars voit une machine exploser et des morceaux d'êtres humains voler dans tous les sens et qu'ensuite, ce n'était pas réel pour lui? Eh bien non, ce n'était pas réel pour lui, pas réel du tout. Et au beau milieu de la séance, une obsession est apparue, une jubilation totale à l'idée de causer tous ces accidents. Et le gars s'est mis à déambuler dans la pièce à pas furtif, tout réjoui à l'idée de faire sauter des machines et des usines entières, disant que c'était merveilleux de tout mettre en pièces, en sélectionnant, parmi ses collègues de travail, le prochain qu'il aimerait tuer. Oh, ce type était parfaitement sain d'esprit. Mais pour arriver à quelque chose avec ce gars, il m'a tout d'abord fallu l'amener à un point où il était d'accord avec moi sur le fait que les accidents, ça existait. Nous avons commencé avec « les gens, ça peut ressentir la douleur. Les gens, ça peut être blessé. » Et il peut arriver des choses aux gens. Mais ce que nous avons fait ensuite, c'est simplement de chercher des gens, c'est un procédé très très ancien que nous utilisons là, de chercher des gens qui avaient une attitude malveillante vis-à-vis d'autres gens. C'est tout ce que nous cherchions. Nous essayons de trouver dans sa famille ou parmi ses alliés, c'était un procédé très ancien, des gens qui avaient une mauvaise attitude. Eh bien, à présent, je peux analyser ce qui s'est passé. Car le changement d'attitude de ce gars m'avait laissé perplexe à l'époque. Je veux dire, déambuler dans la pièce à pas furtif et choisir le prochain employé qu'il allait zigouiller et tout ça, je n'y avais rien compris à l'époque.
En fait, ce que nous avions fait, c'est que nous avions commencé d'une façon ou d'une autre à un certain niveau d'éducation. Toutes sortes de données fixées qui n'auraient pas dû être fixées et toutes sortes de données non fixées qui auraient dû être fixées. Et l'action combinée de ces deux choses avait été à la base de toute cette série de problèmes. Car ces accidents n'avaient rien de métaphysique. Le gars poussait toujours le mauvais bouledon du petit train qui traversait la Syrie. Et il faisait tellement d'erreurs, de gaffes et de bêtises sournoises dans son environnement de travail immédiat que les autres ouvriers se mettaient dans tous leurs états et commettaient à leur tour des erreurs. Et vous constaterez plus que généralement, les gens prédisposés aux accidents ne font rien de très mystique. Ils causent directement les choses. Très bien. Donc, quelle donnée stable allez-vous prendre? À quel point la donnée devra-t-elle être élémentaire? Jusqu'à quel niveau devez-vous descendre? Où se trouve le fond? Voilà la chose principale que vous devez déterminer quand vous utilisez ces procédés. Maintenant, c'est très bien de demander à quelqu'un « Est-ce que la communication est quelque chose de réel pour toi ?» ou de dire « La communication doit être quelque chose de réel pour le préclair » ou toute autre donnée stable que vous cherchez à lui enseigner. C'est très très bien de faire ça, pourvu que ça remplisse la toute première condition. Et quelle est-elle? Que vous lui donniez un fait avec lequel il puisse être d'accord, sur lequel il puisse accroître son accord. Autrement dit, vous améliorez sa réalité sur cette donnée d'un niveau particulier. Peut-être que ça n'existe pas l'auditing. Vous lui dites préclair, vous lui dites communication, mais peut-être que, pour lui, ça n'existe pas l'auditing. J'ai connu des gens qui se faisaient auditer et dont la donnée stable de base, la seule donnée qu'ils pouvaient accepter, était qu'aucune action de guérison ne pouvait réussir. C'était leur donnée de base. Toute guérison était impossible, quels que soient les moyens employés, il était impossible de guérir qui que ce soit, de quelque façon que ce soit, où que ce soit. Et vous auditez ce genre de personne? Alors qu'elle est complètement ancrée dans cette conviction? Quoi que vous essayiez de faire avec elle, vous n'arriverez à rien. Comprenez? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a qu'une donnée. Maintenant, si vous prenez les données du préclair et que vous les ébranlez et les démolissez, vous allez avoir des problèmes. Vous devez les remplacer par d'autres données. Donc le mieux, c'est simplement de commencer à lui donner des données stables sans qu'il s'en doute. Vous lui enseignez une donnée stable conçue par vous et vous espérez qu'elle n'occupe pas la même position relative que l'une de ses données stables à lui. Maintenant, peu importe que votre donnée stable soit correcte ou incorrecte, correctement ou incorrectement formulée, mais elle doit être proche d'une donnée clé. Il faut donc qu'elle soit transmissible à la personne et qu'elle puisse l'accepter ou la rejeter, voyez? Autrement, vous la désétablissez et vous la tirez dans le banc, vous la plongez dans la confusion. Vous lui donnez une donnée stable, mais vous lui donnez une donnée stable qui va correspondre à son niveau d'accord concernant le sujet et l'action que vous lui enseignez. Trouvez ce niveau et partez de là. Merci.